Sous le paysage. Épisode 5. Le ou les sujets du paysage. Enregistré à la Série, dans la bergerie de la vallée de Fabrice Hibert, en juillet 2024. En présence de Jean-Christophe Bailly, Maxime Olivier, Anne Simon et Gilberte Saille. Sur l'invitation de Maxime Rovert.
Exploration des dessous qui font qu'un paysage advient, existe, persiste, autrement que comme ce qu'on appelait jadis le spectacle de la nature. En fait, on l'a vu, la notion même de spectacle poserait un spectateur ou une spectatrice en dehors de ce qu'il regarde. Et on a vu que le paysage, c'est tout autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas autour, mais qui traverse. Et c'est justement cette traversée que je voudrais que nous interrogions aujourd'hui, en réfléchissant sur les sujets du paysage. Puisqu'au fond, si nous tombons tous d'accord pour dépasser la division entre le paysage qu'on observe et l'observateur ou l'observatrice qui le regarde, qui et où est le sujet du paysage? N'y en a-t-il qu'un? Y en a-t-il toujours plusieurs? Comment le penser lorsque la nature n'est plus cette chose inerte et disponible qui se trouvait face à nous comme un décor, mais que soudain surgissent des perspectives, des manières d'être, des manières de percevoir en soi et hors de soi, qui finalement posent la question, encore une fois, du soi, c'est-à-dire la question du sujet.
Parmi les pronoms, le plus redoutable, c'est le « nous ».
Jean-Christophe Bailly.
Évidemment, parce que « nous », ça circonscrit. « Nous », c'est pas les autres. C'est quand même comme ça. Et déjà, donc, la relation qu'on peut avoir au paysage, quel qu'il soit, aucun paysage ne devrait dire « nous ». J'ai écrit autrefois un texte qui s'appelle « Nous ne nous entoure pas », c'est-à-dire que « nous » peut exister à tout moment, et à tout moment se forment de petites communautés. Et là, autour de cette table, on est un « nous ». Il y a les autres. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut, au contraire. Mais, et puis, quand on sera dans le train tout à l'heure, il y aura un « nous » des voyageurs du train, des gens qu'on ne connaît pas, mais voilà, si, touchant du bois, s'il y avait un accident, ben, brusquement, ce « nous » deviendrait plus consistant d'une certaine manière, et ainsi de suite. Et en fait, j'avais essayé d'inventer un mot qui n'a pas pris d'ailleurs. Je disais, ces petits nous qui se succèdent dans la journée, la queue chez le boulanger, enfin tout ça, c'est des nostrations. Et une journée, elle est faite d'une infinité de nostrations qui essaiment comme ça. Et le rapport au paysage, c'est exactement pareil. Si on ajoute tous ces petits nous, ils excluent l'idée d'un nous clos qui s'enferme, etc. Donc je reviens un peu sur ce que j'ai déjà dit à propos du mur, etc. Donc le paysage, c'est il s'adresse à moi en tant que je suis un tout petit fragment de ce nous toujours virtuel et qui peut s'effacer, changer à tout moment. Et au paysage comme tel, c'est-à-dire c'est quand même un concept, c'est une réalité mais c'est un concept, je ne m'adresse pas à lui, et je ne dis pas « toi, paysage », etc. Mais je suis au sein de tous. C'est-à-dire eux tous, c'est-à-dire tous les habitants, tous les fabricants de ce paysage. Et c'est pourquoi la clôture, le nous, l'appropriation, etc. est une chose assez terrible pour moi et dangereuse. Et on voit les enjeux de cette question en ce moment même, aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde. Et en revenant sur des choses qui ont été dites précédemment, donc il y a des philosophes, notamment Heidegger, qui ont essayé justement de penser à l'inverse, c'est-à-dire que le paysage assigne celui qui en vient, c'est-à-dire le natif, à résider dans non pas dans l'exclusivité quand même, mais quand même, il y a une, à la fois une symbiose entre la personne et la forme de ce qui l'entoure. Et ça, je pense que peut-être que c'est vrai, mais à condition que ça ne soit absolument pas clôturé, absolument pas, et qu'il n'y ait pas d'assignation à résider nulle part. Et justement, comme Heidegger s'est beaucoup fondé sur la poésie de Hölderlin, en tant qu'elle serait l'origine de cette assignation à résider sur place, moi je me suis toujours opposé à l'interprétation qu'il faisait, notamment d'un des plus longs poèmes de Hölderlin, qui s'appelle « Le Rhin », et dans lequel il est bien spécifié par Hölderlin qu'une rivière, c'est d'abord un mouvement. C'est d'abord un en-aller, un s'en-aller. Par rapport au paysan qui est là au bord du Rhin ou d'un de ses affluents en Souabe, eh bien le Rhin, il passe, il incarne le présent, il incarne le passé qui vient de la source, mais il incarne surtout un devenir dont il va bien loin au-delà. Et tout paysage, tout ici, est automatiquement un appel vers un ailleurs. C'est aussi dans ce sens-là. Et c'est comme... Et dans le poème de Hölderlin, je me souviens qu'il évoque l'hésitation à partir du fleuve. Et on a tous vu ça, c'est quand on va quand on est auprès d'une source, elle jaillit, puis après, il y a une espèce d'effet de mare, comme si elle attendait, comme si elle se méfiait un peu de ce qui l'attend, puis après, elle y va. Et il parle de cette hésitation à partir qu'ont les sources. Il parle même que à un moment, le cours d'eau, il reste dans des langes, comme un bébé, comme ça. Puis après, il gambade, il y va, etc. Et la campagne qui, disons, serait telle qu'elle fut, peut-être qu'elle est encore parfois, qui serait l'image même de cette résidence, de cette en soi clôturée, etc. En fait, il est sans arrêt parcouru par le lointain. Une hirondelle qui pèse 20 grammes, elle a, pour peu qu'elle ait fait plusieurs allers-retours, elle a 20, 30, 40, 50 000 kilomètres dans les ailes. Et le paysan qui l'a, ou l'enfant qui la regarde, qui n'a en effet, dans l'esthétique fixiste, il n'a pas beaucoup bougé, il est là au pays, il incarne le pays, etc. Mais quand même, il est visité par l'ailleurs. L'ailleurs est sans arrêt présent et ça va être... J'ai pris l'hirondelle, qui est un peu spectaculaire par son côté d'ultra-voyageuse, mais ce serait pareil avec, les par exemple, les fleurs. Les hortensias, il n'y avait pas d'hortensias en Bretagne. C'est une fleur qui vient du Moyen-Orient, qui est arrivée, je ne sais plus, au XVIIe siècle. Comme d'ailleurs le mimosa, il n'y avait pas de mimosa à Nice il y a 200 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le voyage des graines, le voyage des animaux et celui des hommes font partie de ce qui fabrique le paysage. Et je ne crois pas qu'il y ait un nous immense et qui se fermerait comme un couvercle au-dessus des choses, mais une infinité de possibilités, de petites éclosions, de communautés provisoires.
Quand tu dis « qu'est-ce que le sujet du paysage ?», c'est une formulation très classique.
Anne Simon.
Quand tu le pluralises tout de suite, hein, ça devient plus subversif et plus intéressant. Alors... Voilà, je vais naviguer un peu entre ce singulier et cette pluralité. Et je voudrais revenir, pour commencer peut-être, sur qu'est-ce que c'est qu'un sujet. Et donc, comme d'habitude, je reviens à l'étymologie. J'adore le fait que les mots soient pris dans le temps, qu'ils aient des sédimentations temporelles qui en fait comme des sortes de roches, en quelque sorte, mais pas des roches incassables et non friables, au contraire. Alors, sub iectus, on entend dans le préfixe sub ce qui est en dessous. Et puis iectus, c'est un participe passé en latin, c'est le participe passé d'un verbe qui est iacere, jeter. Donc, on est jeté sous, ou peut-être. Alors, qui est jeté sous? Est-ce que ce sont les humains, ou l'humain qui est devant le paysage, ou le spectateur, la spectatrice qui serait jeté dans le paysage, en quelque sorte. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est l'idée qu'en quelque sorte, le monde nous appelle et que nous entrons dans le monde par la vue, notamment, mais aussi par d'autres sens, qui fait qu'il y a des entrées dans le paysage et que le monde vient nous englober. Voilà, ça, c'est une première signification. Il y en a une autre qui rejoint une tradition du sujet occidental philosophique comme un sujet autonome. C'est extrêmement important aujourd'hui de dire qu'on est des sujets libres, des sujets autonomes, qu'on ne doit rien à personne, ni Dieu ni maître, etc. C'est très arrogant aussi que cette illusion de l'autonomie. Moi, je pense que nous sommes des sujets hétéronomes. Nous sommes jetés dans le monde et nous ne sommes pas seuls. Et donc, voilà, nous sommes en lien avec ces autres qui ont été évoqués par, par Jean-Christophe juste maintenant. Et donc, le paysage nous enjoint d'entrer en lui et de devenir nous-mêmes sujets du paysage au lieu d'être dans une posture de contemplation comme elle a été évoquée quand on parlait de Gaspard Friedrich et de ce tableau où on voit quelqu'un qui domine le monde, mais ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, c'est un homme et c'est un homme en costume. Donc c'est un homme civilisé en quelque sorte. Donc on a un mouvement historique qui est lié aussi à notre modernité, cette modernité sur laquelle on n'arrête pas de cracher, de dire qu'elle n'est pas bien, etc. Mais c'est à partir aussi de cette modernité que nous retournons, que nous défaisons de notre démesure pour revenir à ce que Maeterlinck et Proust appelaient la belle mesure de la Terre. Et donc nous nous réinvestissons et réimmissons dans un monde qui fait peut-être moins paysage qu'avant, au sens où il est moins panoramique et moins exposé devant nous, mais dans lequel nous expérimentons des formes de participation. Alors ces formes de participation, et je m'accorde là encore avec Jean-Christophe sur cette histoire de nous qui est tellement facile à prononcer et en réalité tellement difficile à mettre en œuvre. Ces formes de participation, elles peuvent être plurielles. On a des très grands penseurs et des auteurs comme Sartre, comme Proust, qui ont l'impression que quand autrui est à côté de moi et qu'il regarde le monde, qu'il regarde un paysage, il me le vole. Donc c'est toute la théorie de Sartre sur le regard d'autrui qui est une sorte de rapte par rapport au monde que je suis en train d'instituer à partir de ma vision. C'est aussi Proust qui, dans À la recherche du temps perdu, a appris à Albertine. Donc là, on retrouve une sorte de domination masculine qui est aussi une domination sociologique bourgeoise sur les jeunes filles d'alors. Le narrateur a appris à Albertine, qui est très intelligente, à voir la beauté du monde, à voir les paysages, puisqu'avant, elle n'en était pas capable, sociologiquement. Et c'est une excellente élève, elle apprend le langage des robes et elle apprend le langage des paysages. Et à un moment, les deux personnages, le narrateur et Albertine, sont devant un paysage, je crois, de mer. Et Albertine dit quelque chose d'intelligent à propos de ce paysage. Et le narrateur est content parce qu'il voit à quel point elle a progressé. Et ça nous montre à quel point la culture n'est pas quelque chose d'intuitif, hein, que on revient à cette question de la transmission qui a été évoquée par Gilberte aussi, et puis par nous tous aussi, par Maxime Olivier. Et en même temps, il a l'impression qu'elle l'empêche de jouir du paysage parce qu'il n'est plus seul devant. Alors c'est intéressant, on peut le voir d'un point de vue négatif, il n'est pas capable de partager le monde avec autrui, etc. Mais c'est aussi peut-être la question qui est posée, ce besoin de solitude. Peut-être que le sujet du paysage au singulier, on peut le réinvestir de façon positive en se disant que de temps en temps, on a besoin de solitude dans le monde pour expérimenter justement que quand nous l'arpentons, quand parfois dans nos arpentages, nous prenons des photos et on voit très bien comment nous faisons pour créer du paysage et donc de la photo, nous nous déplaçons dans notre solitude. Nous déplaçons légèrement notre écran, nous créons des lignes, nous voulons que cet arbre soit à cet endroit-là, que cette ligne d'horizon ne soit pas juste au milieu, ou au contraire, nous allons créer un paysage à partir d'une racine qui devient une sorte de monde. Donc, voilà, il y a ce besoin de solitude qui m'importe. Hein. Le jeu a besoin parfois de ne pas être en dialogue avec un « tu » qui serait obligatoirement un « tu » humain pour former une communauté humaine.
Dans ma pratique militante, j'ai vu une évolution.
Maxime Olivier.
Alors, je ne sais pas si c'est une évolution qui s'est faite dans les mouvements militants écologistes ou si c'est une évolution qui s'est faite dans ma pensée à moi. En tout cas, dans mon cercle proche, dans mes amis, dans les gens avec qui j'ai pu militer ou avec qui je milite, j'ai pu voir une évolution de... alors c'est un truc assez trivial mais qui dit beaucoup de choses, des slogans qu'on utilise pour essayer de dire en peu de mots, de manière la plus synthétique possible, ce qu'on fait là et ce pourquoi on milite. Et il y a ce slogan qui... Il y a beaucoup de slogans plus ou moins politisés qui vont être très... ce que je disais peut-être au début de ces entretiens, mais qui vont être très tournés autour du climat. Changeons le système, pas le climat. Voir des slogans encore plus dépolitisés qui sont « on est plus chaud que le climat », qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui fait qu'on chante ça ensemble pour faire corps et pour créer ce nous qui existe dans les manifestations, dans les actions. Et puis rapidement, il y a cette prise de conscience qui vient avec ce slogan qui est « Nous sommes le vivant qui se défend », qui est décliné après dans plein d'espaces, de lieux, dans des luttes autour de la Loire, par exemple. « Nous sommes la Loire qui se défend », et c'est imprimé sur des affiches, en A3, en A2, en grand, ce qu'on va coller, c'est aussi ce qui est tagué sur les murs, etc. Et il y a vraiment cette appropriation de ce slogan-là, ce qui est intéressant, je fais une parenthèse, mais sémantiquement, parce qu'en fait, en anglais, c'est « We are nature defending itself », où en fait, en anglais, on est obligé d'utiliser le mot « nature », et en français, en tout cas, on a la chance de pouvoir utiliser le mot « vivant ». On a la chance de pouvoir utiliser le mot « vivant », qui nous permet aussi de sortir de cette dichotomie nature-culture. Et donc ça, c'est un slogan moi, qui m'a beaucoup marqué et qui est beaucoup, beaucoup utilisé aujourd'hui, parce qu'il permet vraiment au sujet militant, à la personne et au groupe, il permet au sujet de faire groupe en disant « nous », et il permet à ce groupe-là de se fondre et de faire partie complètement du vivant et de ce qui doit être défendu et protégé. Et il y a un autre, continuer d'aller dans ce sens-là, il y a un autre élément de langage, une autre articulation qui est faite avec ça, qui du coup, le fait qu'on se défende en tant que groupe appartenant à ce paysage, à ce vivant, on met ce contre quoi on se défend dans une posture d'agresseur, d'oppresseur, de dominant, et on utilise le terme de désarmement. Et ça, c'est un terme qui vient de plus en plus, notamment dans les actions de désobéissance civile et de sabotage, qui est de retourner le stigmate des militants écologistes éco-terroristes en disant « c'est nous qui nous défendons par rapport à l'agression qu'on subit du modèle néolibéral et capitaliste qui vient détruire le vivant dont on dépend, mais plus que ça, dont on fait partie et auquel on appartient ». Et donc ça crée en tout cas une volonté... chez une partie des jeunes écolos qui font partie de ces mouvements-là, alors je ne sais pas qui de l'œuf ou de la poule, mais en tout cas qui de mieux connaître ces paysages-là. Et donc on voit toute une vague d'actions, d'activités qu'on avait très peu dans les mobilisations urbaines auparavant de cette jeunesse climat, qui serait celle des naturalistes. Et donc un intérêt pour les balades naturalistes, pour aller découvrir ce vivant dont on fait partie, pour le rendre tangible et le rendre vraiment... essayer de mieux le comprendre et de mieux savoir exactement ce qu'on défend. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est apparu en premier, mais c'est le fait de politiquement se positionner en disant « nous sommes ce vivant-là » et du coup de sentir une forme de dissonance qui nous pousse à dire « ok, on est le vivant, mais attends, ça veut dire quoi être le vivant? Qu'est-ce que c'est ce paysage? Qu'est-ce que c'est ce vivant ?» Et du coup, essayer de mieux le comprendre et du coup de se replonger avec toute cette série d'ingénieurs qui finissent par vouloir devenir maraîchers en disant « en fait, il faut que je retrouve une activité avec les mains, avec la terre, que je fasse corps, que je comprenne ce vivant et ce paysage dont je fais partie. » Donc il y a ce fameux quiz biorégionaliste qui est notamment diffusé par Mathias Rollo, qui est un des penseurs du biorégionalisme notamment. Et qui nous a beaucoup frappé en tant que jeunes dans les milieux écologistes, parce qu'en fait c'est un quiz sur lequel il pose des questions assez banales du genre est-ce que vous êtes capable de remonter le chemin de l'eau que vous buvez? Est-ce que vous êtes capable de savoir d'où est produit l'eau que vous buvez, par exemple, d'où, de quelle source elle vient? Et de se rendre compte, en fait, la plupart des questions, on n'est pas capable d'y répondre. Et donc de se rendre compte que finalement nous sommes le vivant qui se défend, en fait c'est avant tout un slogan auquel il y a une forme de grosse dissonance de dire mais en fait on n'y connaît absolument rien pour la plupart d'entre nous sur vraiment ces paysages-là qu'on essaye de défendre. Et donc il y a cette forme de dissonance que je ressens et je finirai là-dessus. Et donc et je sens qu'il y a des nouvelles pratiques qui s'instaurent et qui s'instituent, notamment un retour en force du naturalisme, j'ai l'impression, qui nous permet de mieux nous penser dans le paysage en fait en tant qu'individu, en tant que groupe. Et ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener, mais en tout cas, je sens qu'il y a ce regain d'intérêt là que je trouve très, très intéressant et très curieux à certains endroits. Voilà.
Au fond, on sent que notre époque, nous tous, et moi compris, nous sommes portés par une attention peut-être unique dans l'histoire à ce qui se déplace, ce qui change, ce qui passe, ce qui se transforme, c'est-à-dire au processus plus qu'aux formes. Et partout où nous voyons une forme, il nous semble essentiel de nous rendre attentifs à ce qu'elle exprime de processus. C'est très intéressant. Mais de temps en temps me vient la critique de Zygmunt Bauman de ce qu'il appelle la vie liquide, c'est-à-dire une certaine manière de refuser, de ne plus voir ce que la forme contient de propositions et de vouloir absolument, disons, rendre tout fluide. Et il me semble que dans le paysage, il y a quelque chose qui est tout de même intéressant, c'est que justement, s'il y a paysage, c'est que malgré tout, quelque chose prend forme. Quelque chose, c'est-à-dire peut-être au pluriel, sans doute au pluriel, peut-être même par-delà le singulier et le pluriel, mais en tout cas, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, quand je dis prend forme et que je joue avec les pluriels, il faut se souvenir que la forme, elle se définit principalement par ses contours. Qu'est-ce qu'un contour ? C'est nécessairement la rencontre entre au moins deux espaces, n'est-ce pas ? Et donc, il me semble qu'on pourrait tout à fait orchestrer une boucle qui est vraiment le motif par excellence de la complexité. Ça veut dire quelque chose qui tourne en rond, mais qui en même temps a des pôles. Et cette boucle irait en fait de la forme au processus et du processus à la forme. Lorsque vous voyez une forme autour de vous, qu'elle soit naturelle, enfin, que vous l'identifiez comme non humaine, non faite de main d'homme, akeiropoiet, comme on disait à l'époque, non faite de main d'homme, et, ou bien artificielle, ce qui signifie que l'homme y a mis en œuvre son art, son artifice, ses techniques, qu'il s'agisse d'un mot ou qu'il s'agisse d'une perception, dans tous les cas, il me semble intéressant d'opérer ce va-et-vient et de le laisser advenir de la manière la plus, la plus approfondie possible. C'est-à-dire que là où il y a la forme, voyez le processus. Là où vous voyez le processus, allez vers la forme. Parce que de cette manière-là, en fait, on évite les angles morts qui nous font méconnaître certains attachements. Maxime Olivier en parlait dans l'un de ses entretiens. C'est-à-dire, il y a des attachements à certains paysages. Voilà, peut-être que les gens n'y comprennent rien, ne peuvent pas rendre compte des processus qui s'y font. Oui, mais eux, ils sont attachés. Il y a des formes qui nous attachent, des formes de vie auxquelles on s'identifie. Et puis, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a accepté l'identification de soi, de ce qu'on estime être la vie bonne, à certaines formes, aller aussi dans l'autre sens, et apprendre à se départir de sa propre identité. Dans une certaine mesure, dans cette interaction, dans ce travail qui consiste à la fois à se déprendre de soi, mais aussi à s'affirmer, à se décorréler du sujet, c'est-à-dire à pas rester complètement attaché à sa propre affirmation, à son anthropomorphisme, à son anthropocentrisme, à sa propre culture, ses assignations à résidence dont parlait Jean-Christophe Bailly tout à l'heure. Et puis d'un autre côté, pas être complètement dupe justement de l'accès que nous aurions à ce que certains appellent le grand dehors, c'est-à-dire un monde de pure réalité où tout serait en fait désubjectivé. Donc, Dans le paysage, sous le paysage, se cachent énormément de choses qui se donnent forme, et dans ces formes se révèlent des possibilités, en quelque sorte, infinies, celles d'un sens, et je terminerai là-dessus, sert de la notion de sens sans signification. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un paysage ? Alors, il y a la posture qui consiste à simplement accepter que ça ne veut rien dire. Vous connaissez la posture de... Enfin, le poème de Silésius, dont Heidegger a donné un long commentaire, qui est « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle ne se demande pas « Suis-je belle ?»
En réfléchissant, là, je me souviens d'un passage du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, le grand poète portugais du début du XXe siècle, et comme dans la plupart de ses textes, enfin, il se promène. Et il est dans Lisbonne, et puis s'énerve contre Amiel, le romantique français, et contre une phrase de lui qui dit « Tout paysage est un état d'âme ». Et ça l'horripile. Et peu après, parce qu'il dit « Non, mais ça, justement, la forme de l'appropriation sentimentale, etc., c'est un état de choses, mais pas un état d'âme. » C'est-à-dire l'âme, elle se promène autour ou dedans, mais... Et après, il raconte sa promenade, et à tel endroit, San Pedro de Alcantara, je ne sais pas quoi, il dit « Ah, j'ai eu la révélation du dehors absolu. » Le dehors absolu, ça veut dire quelque chose, justement, l'âme ne peut pas pénétrer. Donc on est à l'opposé de toute, tentative de symbiose, d'empathie intégrale, etc., de « je suis partie d'eux », etc. Et ça m'intéresse énormément. Et justement, je rapproche ça de Descartes, que je suis heureux que tu aies défendu, parce qu'il y en a marre, le pauvre René. Mais justement, parce que si le ego sum, c'est-à-dire « je pense, donc je suis », c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour qu'il y ait le cogito, pour qu'il y ait l'éclosion du jeu, il faut bien qu'il y ait c'est comme un sauteur, il faut qu'il y ait un tapis au bout d'un moment. Et le tapis, c'est le monde. Et le jeu, c'est le saut de la pensée. Le saut de la pensée là-dedans. Et c'est exactement là. Et je rapproche ça de Pessoa, ça veut dire, brusquement, le dehors absolu, ce serait quand même... Alors c'est un peu ce que je disais sur le fait que le paysage existe bien avant nous, il nous survivra quoi qu'on fasse, même si on le ravage, on n'arrivera pas à le supprimer complètement. Et l'idée que ce dehors absolu, c'est quand même la puissance de recharge du sens. C'est-à-dire que le paysage, pour moi, il ne fait pas sens. Il est le sens. Il est le sens parce qu'il en produit continuellement. Il en produit continuellement avec le vent qui augmente. Par exemple, hier, on était au même endroit. Il y a une auge là. Il y avait un tout petit peu d'eau. Aujourd'hui, elle est pleine. Ah, évidemment, l'inspecteur, ah, il a plu. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que ça a déjà changé et que la forme du frémissement est différente, etc. Et donc, cette production de sens, elle devrait être exténuante. Et en fait, elle ne l'est pas. Et le dehors absolu, je crois qu'on doit le garder comme une éventualité de la pensée. Parce que j'en ai un peu par-dessus la tête du discours de l'empathie systématique et générale, qui est une dérivée de Mother Earth et tout ça, etc. Et il y a plein de penseurs, souvent américains, mais pas uniquement, et même dans l'hypothèse Gaïa de Latour, etc., il y a un moment où je m'en vais dans les bois pour ne plus les voir. Je peux raconter une anecdote, je terminerai là-dessus. J'étais à un endroit qui s'appelle la Manufacture des Idées, qui est une manifestation qui se tient lieu chaque été en Bourgogne, avec justement beaucoup de gens sensibles à l'écologie, des philosophes qui viennent. C'est une bonne manifestation. Et il y avait une des voix principales de ce courant qui m'énerve, Donna Haraway, qui parlait. Et j'étais devant un arbre, un grand arbre, où il y avait un peu de vent. C'était un conifère, je ne sais plus lequel exactement. Et je regardais, en écoutant d'une oreille de plus en plus distraite, les propos que je ne commenterai pas plus, mais l'arbre m'a aidé à détourner mon attention du discours. Et ce que je voyais, c'était la façon dont les branches bougeaient au vent comme ça. Ce qui est très beau des conifères, c'est que les branches arrivent horizontalement, certains conifères, pas les pins, mais certains conifères, les branches arrivent assez horizontalement auprès du sol, comme ça. Et on a vraiment la sensation physique que l'arbre est en train de lire. Que l'arbre est en train de lire le sol. Évidemment, c'est peut-être une métaphore, mais en même temps, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que le je ne vais pas dire qu'il va arrêter de lire quand le vent va cesser, mais cette espèce de frémissement permanent du monde, qui est un frémissement à lui-même, du sens à lui-même, c'est ça le dehors absolu, je pense. Et il me semble que ce n'est pas assez intégré dans un discours de l'empathie systématique. Parce que avant l'empathie, il y a l'immédiate reconnaissance du singulier, la singularité. Et là, on est dans le foin, il y a le foin, il y a la paille, c'est pas pareil. Et puis chaque brin, j'arrête pas d'en ramasser depuis tout à l'heure pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Voilà, donc, je vous remercie.
Gilbert Tsaï.
Je suis metteur en scène de théâtre. Ce qui est important aussi à dire, peut-être, c'est que je suis née de père chinois et de mère française. Ce qui a, je pense, orienté mon travail de metteur en scène au théâtre, puisque ayant été toujours entre deux civilisations, même en étant vivant en France, toujours, je peux dire que le travail théâtral que j'ai fait a toujours été un travail de mixité et que mon souhait, c'était toujours d'ouvrir. Je trouvais que le milieu du théâtre était très, très, très centré sur lui-même. Et j'avais vraiment envie de l'ouvrir au vivant. Et c'est ainsi que, après avoir monté des spectacles, j'ai jamais monté de répertoire, ou plus tard, enfin, quand j'ai pris la direction d'un théâtre. Mais j'ai toujours essayé de partir d'une idée, d'un thème, de rassembler des textes et puis ensuite de voir comment ces textes pouvaient se déployer dans le théâtre et dans quel décor. C'est ainsi que... alors j'ai fait un premier spectacle effectivement sur mes origines en rassemblant des Chinois qui se trouvaient en France et en leur faisant raconter leur histoire d'émigration. Et puis à un moment, il s'est trouvé que, ayant acheté une maison en Bourgogne, je me suis trouvée propriétaire d'un jardin, et que la question que je me suis posée, c'est que faire de ce jardin ? Et j'ai commencé alors à lire des textes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui concernant les jardins. Je les ai rassemblés, et à un moment, je me suis dit, je vais faire un spectacle avec ça. Et ça va me permettre de faire entrer la nature, le paysage, dans l'enceinte du théâtre. Alors pour ça, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse faire entrer cette nature dans le théâtre. Et c'est là où on m'a suggéré de contacter Gilles Clément, le paysagiste, qui à ce moment-là n'était pas très connu. C'était, il est devenu maintenant beaucoup plus connu. Et donc, je l'ai appelé et... Il m'a dit tout de suite, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis 5 minutes après, le téléphone sonne, il me dit, mais voyons-nous. Et puis on s'est vus, et de fil en aiguille, il a conçu un vrai jardin qui s'est inséré dans le théâtre. Alors ensuite, en fonction du jardin, donc c'est un jardin vraiment, il y avait une forêt de bambous, il y avait un petit jardin à la française, il y avait... un bassin d'eau avec une cascade. Et donc, il a pu développer comme ça toutes les plantes, des plantes différentes. Et puis, en fonction de ce jardin qu'il avait fait, il a fallu inventer un système pour les comédiens ensuite au centre. Donc, un scénographe est intervenu à ce moment-là et a fabriqué une structure assez mobile qui pouvait se déplacer, qui pouvait servir pour les comédiens. Le jardin était magnifique. Il était, alors, il s'est créé à Comble-la-Ville, à côté de Paris. Et les gens venaient le visiter la journée. Et puis le soir, ils venaient voir le spectacle. Pour constituer ce jardin, il a fallu en fait trouver les végétaux. Et en fait, il y a eu un accord avec la ville de Comble-la-Ville, avec le service des jardins, et ils ont fourni les végétaux. Et à la fin du spectacle, ces végétaux ont été replantés dans un rond-point qui s'appelle toujours, qui porte le nom du spectacle, qui s'appelle le rond-point de la main verte. Et quand je vais à Comble-la-Ville, les gens me disent, ça pousse, c'est là, toujours. Et donc, voilà, je suis très, très heureuse que ce, souvent, bon, effectivement, un spectacle de théâtre existe, puis ensuite, on n'en parle plus. Et là, la nature continue à faire exister le souvenir de ce théâtre. Et puis, ce spectacle, ensuite, s'est adapté. Bon, il a tourné, il s'est joué au TNP à Lyon, chaque fois avec un accord avec les services des jardins de la ville. Chaque fois, les végétaux étaient récupérés. C'est joué aussi à Bourges. Et plus tard, donc, quand j'ai pris la direction du Centre dramatique national de Montreuil, j'ai souhaité en faire une autre version plus légère. Et donc, j'ai repris ces textes et avec un groupe de comédiens, on a fait un spectacle mobile qui se jouait dans les jardins, vraiment. Et donc, il a tourné sous cette forme-là. Donc voilà, c'est un peu le lien que j'ai eu, moi, au théâtre, en tout cas avec le paysage.
Jean-Christophe Bailly.
Conseil valable en toute saison. Pour sauver ce qui reste des glaïeuls, tu prendras de la poudre d'ange. C'est en battant des ailes qu'ils la font au-dessus des morts. Et tu la mélangeras avec du pollen et des pétales broyés, du jus d'ortie et du sang de mouche. Puis, tu prendras ta bêche et retourneras la terre comme il t'a été enseigné, et tu sèmeras les ailes de hanneton à la volée en avril. Vers juin, elles s'envoleront au-dessus d'une mousse d'où jailliront une à une de vraies fraises des bois au goût de profondes cascades. Avec les feuilles, tu feras un brouet en les mêlant d'eau, de mélasse et de fleurs de salpêtre. Puis, avec ce brouet, que tu auras laissé reposer au moins 5 à 6 jours, tu badigeonneras le pied des cèdres et viendront tout autour, autant que tu en voudras, des girolles qui sont les flammes de la terre. Ensuite, tu iras le long des haies d'aubépines avec un canif et un chien et tu feras faire au chien 3 tours complets autour d'un chêne. Tu feras par toi-même de petites soucoupes avec les cupules des glands et tu émettras, en tassant bien, des fleurs d'aubépine pilées. Et quand tu auras une douzaine de ces soucoupes, tu les enterreras à 5 cm entre des touffes de thym. Vers la fin de l'été, tu verras sortir de terre des tiges flexibles au goût de menthe poivrée et aux crosses fleuries de toutes sortes de clochettes, comme un muguet d'automne, mais bigarré et plus grand. Ensuite, entre tous les parasites, il faudra te méfier tout premièrement de toi-même, puis de la flétrissure sauvage qu'occasionne le grésil des papes. Contre ce dernier qui est traître et ardent, tu feras à la fin de l'hiver des feux de bois de buis mêlés d'essence de lavande, dont tu répandras les cendres par petites mottes aux endroits touchés, et même là où rien ne se verra encore. Quant à la jouissance que te procurera ton jardin, le mieux est de t'étendre sur un coin d'herbe, un jour de pluie, et de rester ainsi étendu pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que tu sois bien trempé. Alors, tu auras pris racine, et de douces limaces viendront lécher tes pieds.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, l'Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.